Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Réplique de la grande crise migratoire qui a secoué le continent européen l'année dernière ou effet ricochet de la crise économique dans laquelle est engluée la France, le sujet de l'immigration s'est invité massivement dans la campagne présidentielle. Le sujet de l'immigration, mais aussi celui des banlieues, de l'islam et qu'on le veuille ou non, celui de l'identité nationale. Derrière tout cela, une question profonde, celui du visage que les candidats veulent favoriser de la France et des valeurs fondamentales de ce pays. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc Identité nationale ou multiculturalisme. Je reçois donc quatrième émission de cette série. Je reçois ce matin autour du plateau. Alors il y a du monde et du beau monde. On va commencer dans l'ordre en tout cas autour du plateau, même si vous ne nous voyez pas. Michel Alenoux, vous êtes président de la communauté d'Emmaüs de Saint-Gaudens. Bonjour.
Bonjour.
Autour de ce plateau donc aussi Maïté Carsalade, vous êtes donc maire adjointe honoraire, c'est ça, de Toulouse, et élue Front National au Conseil Régional et candidate à la députation dans la 4e circonscription, bonjour.
Bonjour.
Abderrahman Oumachar, vous êtes médiateur social et interculturel et président fondateur de la mosquée de Bagatelle à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et François Tolzan, vous êtes membre du Parti Communiste, ancien maire adjoint de Cugnot et délégué diocésain à la mission ouvrière, bonjour.
Bonjour.
Alors, on aura peut-être le temps d'expliquer un petit peu ce qui recouvre toutes ces, tous vos titres, j'allais dire, en tout cas vos qualités, au fur et à mesure de cette émission, puisque vous illustrerez évidemment vos propos et pensées par vos expériences de terrain. Et puis, pardon, je l'ai oublié, excusez-moi, Alexandre Efremenko, qui est donc en plateau, qui est donc membre, enfin, qui est en première année de l'école de journalisme de Toulouse, école partenaire de cette émission. Alors, on va commencer cette émission tout de suite. Je vous propose de parler, pour commencer, donc des questions de sécurité. Alors vous me direz, c'est une drôle d'entrée en matière. Je précise tout de suite, pour ne pas être désagréable avec M. Oumachar, que l'islam ne pose pas que des problèmes de sécurité ou n'est pas toujours lié à l'immigration. Mais bon, c'est hélas comme ça que c'est présenté dans le débat. Donc j'ai fait comme tout le monde, en espérant que vos réponses seront peut-être un peu plus éclairantes que d'autres débats. Toujours est-il que les candidats sont globalement, on va dire, sécuritaires, pour faire court. Plus de policiers, plus de prisons, c'est essentiellement ce qui revient dans les programmes. Alexandre Efremenko, vous voulez nous faire un point peut-être sur les différentes propositions des candidats.
Oui, Emmanuel Macron propose un plan de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes. François Fillon annonce lui un total de 10 000 agents supplémentaires sur le terrain. Marine Le Pen va plus loin et annonce un plan de recrutement de 15 000 policiers et gendarmes. Benoît Hamon, lui, promet la création de 5 000 postes supplémentaires. Jean-Luc Mélenchon veut emmener les effectifs policiers et ceux des gendarmes à ceux de 2007. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il a annoncé un plan de recrutement de 10 000 policiers de l'air et des frontières.
Voilà, donc ça c'est les chiffres grosso modo. Donc c'est en tout cas, on a l'impression qu'il y a un tour de vis sécuritaire. On pourrait citer plein d'autres mesures et je le ferai au fur et à mesure de cette émission. Tout simplement, comment vous réagiriez à ça au vu de vos expériences respectives? On va commencer par vous, honneur aux dames. Maïté Carsalade, est-ce que à votre avis c'est important et est-ce que ces candidats se trompent ou pas?
Non, c'est un moyen, c'est un outil. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème est dans ce mal-être qu'il y a dans notre pays, où les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. C'est ça le fond du problème. Et il y a des gens qui sont en souffrance, pour des tas de raisons. Et je pense que, quand vous avez parlé d'autorité tout à l'heure, je crois que le fond du problème, c'est un manque d'autorité, c'est-à-dire que les valeurs de la République française ne sont plus respectées. Pas parce que les gens sont méchants, parce que l'autorité ne s'est pas imposée. Alors bien sûr, les policiers, c'est un moyen de faire respecter, mais c'est dans la tête qu'il faut faire respecter les choses. C'est pas les policiers qui pourront être chacun derrière.
C'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen nécessaire.
C'est un moyen nécessaire, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion.
D'accord, en tout cas donc vous êtes a priori, il n'y a pas un candidat qui a votre faveur puisque les chiffres sont globalement assez équivalents, on disait 5 000 agents de force de l'ordre pour François Fillon, 10 000 pour Emmanuel Macron, voilà Emmanuel Macron quand même donc c'est important, Marine Le Pen c'est 15 000, vous direz que c'est une urgence et qu'il faut mettre le paquet sur ces sujets ou pas?
C'est important, il faut dégager les policiers de toutes les tâches administratives qu'ils ont à faire, il faut simplifier les choses et il faut que les gens respectent la police et je crois que les derniers événements que nous avons eu à Paris et en banlieue ne sont pas un exemple pour les jeunes générations et en particulier pour ceux qui sont les plus révoltés. Je pense que les jeunes ont besoin d'une certaine autorité. Ils n'ont plus d'autorité dans la famille et cette autorité, elle est nécessaire. On ne peut pas construire une société, on ne peut pas vivre dans une société sans un minimum d'autorité.
Alors, on reviendra sur d'autres mesures, hein, sur ces questions de sécurité. Est-ce que les uns et les autres ont des réflexions? François Tolzan, vous qui avez été maire adjoint de Cugnot, est-ce que vous diriez, au bout de votre expérience en banlieue, donc dans les quartiers, que de fait, la sécurité, c'est une priorité?
Oui, la sécurité, c'est une priorité. Pendant les mandats que j'ai exercés, on a essayé de faire de la sécurité avec la police municipale en lien avec la gendarmerie, puisqu'ils travaillaient ensemble, et nous avons favorisé l'implantation d'une brigade de gendarmerie juvénile dans le quartier du Vivier, où il y a 450 familles, de façon à faire respecter l'ordre. Mais en même temps, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a un problème aussi qui est lié au niveau de la crise, c'est-à-dire c'est les jeunes qui sont désœuvrés. C'est le manque d'emploi, c'est le manque de logement, c'est aussi l'éducation, le rôle de l'éducation nationale à la citoyenneté, à faire que des jeunes respectent les principes aussi de la République, liberté, égalité, fraternité.
Alors peut-être, si ça vous embête pas, on y reviendra sur les différentes solutions. On reste juste sur le volet sécurité. On a bien compris que pour vous, en fait, ça va pas sans un pendant, d'une certaine manière, à vous entendre. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que donc vous considérez de fait qu'il y a besoin de mettre des moyens, et donc vous souscririez aux différentes propositions des candidats, y compris, sans vouloir vous trop vous provoquer, hein, quand Marine Le Pen dit qu'il faut 15 000 gendarmes et policiers en plus, en tout cas, vous dites pas que sur ce point-là précis, c'est forcément une erreur.
Il faut des policiers, des gendarmes en plus, bien sûr, oui. Et remplacer l'armée, parce qu'actuellement, c'est l'armée qui supplée au manque de policiers, de gendarmes. L'armée doit faire son métier dans les casernes, et les policiers et gendarmes faire aussi leur métier au niveau des populations.
Abderrahmane Oumachar, qu'est-ce que vous direz sur ce volet? J'imagine que vous connaissez aussi un petit peu les banlieues ou les quartiers. Alors évidemment, ces mesures ne concernent pas que les quartiers, hein, c'est pas des 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans les banlieues. Mais bon, comme grosso modo, c'est quand même la thématique, c'est vos domaines d'expertise. Qu'est-ce que vous direz sur ce sujet? Est-ce que vous, ou dans les banlieues, en fait, on réclame plus de policiers?
Alors moi, j'ai la particularité aussi, c'est que je vis et travaille dans une banlieue, dans une cité. Donc, aussi, il y a une bonne partie aussi de mes activités associatives se pratiquent au sein de certains quartiers prioritaires. Donc, la question de la sécurité, elle est posée. Et les populations aussi des quartiers réclament aussi la tranquillité, réclament la sécurité.
Tout le monde.
À tout le monde, bien sûr. C'est un droit, c'est un besoin.
C'est les premières victimes, d'ailleurs.
Bien sûr. Et... moi, j'ai juste une remarque. Je pense que les politiques, globalement, parce qu'il y a un contexte un peu particulier lié à ce montée aussi d'attentats, etc., je constate que les politiques ont choisi plutôt d'être dans la réaction et pas forcément dans la solution, dans la réaction un peu, dans la réactivité immédiate.
C'est une première solution quand même de proposer plus de force de l'ordre.
Moi, je pense que c'est la réaction, elle rassure à court terme, mais elle apporte pas forcément des solutions sur le long terme. Sur le long terme, je pense qu'il faut travailler sur d'autres aspects, sur la cohésion un peu de notre pays, sur l'éducation, sur...
Alors, on va y venir, si ça vous dérange pas.
Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que de par aussi mon expérience, je pense que les forces de l'ordre, il faut leur donner la possibilité de construire des relations de confiance dans les quartiers et qu'ils soient pas forcément toujours dans la répression, même si c'est la lutte contre les crimes, etc. Ça fait c'est le cœur un peu de leur métier, mais ils seraient d'autant plus efficaces si on leur donne la possibilité de construire des liens et de se former aussi à l'interculturalité aussi.
Donc vous dites ça parce que vous êtes médiateur social et interculturel. Exactement. Je voulais faire écho et vous faire réagir là-dessus justement à une mesure qui est proposée. Alors c'est le seul à le proposer, c'est Benoît Hamon, de la mise en place d'une police de proximité. On sait qu'elle existait en fait dans les quartiers, que c'est sous donc le mandat de Nicolas Sarkozy qu'elle a été supprimée. J'ai trouvé en préparant cette émission une déclaration donc du président de l'association Ville et Maires de banlieue, un certain donc Marc Veuillemot, qui dit qu'en fait de manière unanime, les maires de banlieue seraient favorables à cette police de proximité. Alors qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Abderrahmane Oumachar, est-ce que vous diriez qu'il faut une police de proximité, que ça a été une mauvaise idée de retirer cette police?
Moi, je pense qu'il faut donner aux forces de l'ordre la possibilité de travailler dans des bonnes conditions. Et à mon avis, le fait qu'ils soient là, une présence assez régulière et qu'ils puissent tisser aussi des liens de confiance avec les habitants des quartiers, je pense que c'est une bonne chose et qu'ils peuvent être plus efficaces et qu'il y aurait moins de dérapages qu'on pourrait constater, qu'il y aurait aussi moins de relations un peu compliquées entre les forces de police et les populations.
Maïté Carcelat, sur ce point, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Benoît Hamon a raison?
Benoît Hamon a raison, mais d'un autre côté, il ne faut pas prendre les policiers pour des assistantes sociales, c'est ça le problème. Aujourd'hui, pompiers et policiers devraient remplir le rôle d'assistante sociale. Je crois qu'il faut...
Quel est le lien entre assistante sociale et police de proximité?
L'assistante sociale, elle est là pour répondre à des problèmes sociaux. La police, elle est là pour faire respecter la loi.
Et ça peut être une manière de faire respecter la loi que d'avoir une police qui est au plus près de la population et qui du coup a des relations peut-être moins conflictuelles.
Souvenez-vous quand même, et je m'en souviens très bien, de la police de proximité qui jouait au foot avec les jeunes dans les quartiers, etc. Je pense que c'est un peu comme l'autorité parentale. On n'est pas des copains. On n'est pas des copains. Par contre, je comprends très bien ce que veut dire monsieur sur la confiance, c'est-à-dire que la police doit être respectée. Pour être respectée, elle doit être respectable, évidemment. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat là.
Donc exit la police de proximité.
Non, la police, elle a son rôle, mais en tant que police. Pas en tant que... Je pense que les gens ont confiance, la plus grande majorité des gens. Parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Les premières victimes dans ces quartiers qu'on dit prioritaires, c'est la population elle-même. C'est à eux que... C'est leur voiture qui brûle, souvent. C'est eux qui subissent le trafic de drogue dans les halls d'immeubles. On a coupé l'électricité dans les halls d'immeubles il y a quelque temps, dans certaines cités HLM du Mirail. Pourquoi? Pour empêcher le trafic de drogue. Mais il faut comprendre que les gens, la jeune femme ou la dame qui descend sa poubelle le soir dans le noir, c'est pas viable.
Alors, je vais parler peut-être d'une mesure qui fâche davantage. Le but, c'est pas de vous fâcher les uns les autres, mais en tout cas, c'est d'aborder toutes les mesures. Et je vous oublie pas, Michel, je vais vous donner la parole. C'est Marine Le Pen qui propose, donc sur les questions sécuritaires, un plan de désarmement des banlieues et une reprise en main de l'État des zones de non-droit, avec, elle dit même, l'arrestation de 5000 personnes qui seraient identifiées par les services de police et autres. C'est la seule, en fait, à faire cette proposition radicale, parce que plan de désarmement des banlieues, on peut imaginer que ça ne va pas se faire sans difficulté. Hein. Est-ce que vous voulez la commenter, vous qui êtes dans son parti, Maïté Carcelat, et qu'est-ce que vous pensez de cette mesure et pourquoi elle est urgente, cette mesure?
Elle est urgente parce que tout le monde sait qu'il y a un énorme trafic d'armes en France. On a l'autre jour intercepté 10 000 armes en Espagne. Elles transitent, elles viennent d'ailleurs des pays du Moyen-Orient, elles passent par tout un tas de circuits. Les armes, c'est quand même effrayant. On ne peut pas imaginer qu'on vive dans des quartiers où il y a des armes qui sont dans les caves, etc. On arrive même à bloquer les caves pour éviter ce genre de trafic. Mais on n'y arrive pas.
Alors Marine Le Pen n'explique pas dans son programme, évidemment, ce qu'elle ne va pas détailler à chaque fois d'une page, mais comment elle va s'y prendre? Parce qu'elle
va s'y prendre.
On peut imaginer que tout le monde en rêve, mais...
Non, la police sait.
Qu'est-ce qu'elle va faire?
Le problème, c'est que la police
de plus.
Et la population sait où sont les problèmes, les gros problèmes. Les gros trafics, on sait où ils sont. Le problème, c'est que depuis des années, on a un État qui est un État faible et qui ne prend pas en considération ce genre de problème. Ils ne vivent pas dans les banlieues. Les gens qui nous gouvernent ne vivent pas auprès de la population.
Les préfets vont en banlieue de temps en temps quand même.
Oui, oui, ils y vont, mais pas de vagues. On achète une espèce de paix sociale en acceptant le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic de pièces détachées. C'est pas possible. C'est pas possible pour les jeunes qui vivent là, et dont c'est un exemple épouvantable, et c'est pas possible pour les familles qui y vivent. Parce que les familles qui fuient ces quartiers, c'est parce qu'elles ne veulent pas que leurs enfants subissent ce trafic sous les yeux tous les jours. C'est ça le problème. Donc je suis totalement pour, et ça se fera.
François Tolzan, ça se fera en tout cas si Marine Le Pen est élue.
Bien sûr.
François Tolzan, qu'est-ce que vous diriez sur ces questions donc de désarmement des banlieues et de reprise en main de l'État de zones de non-droit? Est-ce que ça vous semble un bon programme?
Oui, c'est vrai qu'il y a des armes qui circulent. Moi, je suis pour l'arrêt de la construction des armes. Ça, c'est sûr que...
Parce qu'il y a... Alors là, le problème, c'est pas la construction des armes. C'est de savoir si, oui ou non, on va en banlieue pour...
À partir de là, les armes qui circulent, elles sont fabriquées, elles sont vendues. Il y a un commerce. Donc moi je suis pour arrêter ce commerce, parce qu'il y a aussi, ensuite, il y a les questions de paix.
Ça, j'entends. Mais dans les banlieues... Mais sur cette mesure, qu'est-ce que vous diriez?
Mais dans les banlieues, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que la drogue et les armes quand même. Il y a une vie associative qui se vit aussi dans les banlieues. Moi je dirais, c'est marginal. Et il faut rechercher la cause. Pourquoi il y a des armes? Pourquoi il y a de la drogue au niveau de ces banlieues? Voilà la question qu'il faut se poser.
D'accord, on entend votre question, hein, mais du coup, malgré tout, vous n'avez pas l'air de dire que c'est forcément une mauvaise idée que le prochain président de la République lance un grand plan de désarmement des banlieues.
Je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus.
D'accord, vous n'avez pas d'avis dessus. Abderrahmane Oumachar, qu'est-ce que vous en penseriez? Ça vous semble être un effet d'annonce ou pas?
Globalement, je ne suis pas favorable à ce genre un peu de mesures que je trouve un peu spectaculaire et un peu...
Parce que irréaliste ou parce que...
Un peu à choquer un peu l'opinion publique. Je vis dans une banlieue, je connais un peu ces réalités. Je ne pense pas qu'on est dans des zones comme telles qu'elles sont décrites un peu de l'endroit, ou qu'il y a un trafic d'armes aussi intensif. En tout cas, je parle de la... des banlieues que je connais et là où je vis. Et je pense qu'il faut plutôt investir dans tout ce qui va, dans les mesures, travailler sur l'éducation, travailler sur l'insertion, travailler, je côtoie tous les jours des jeunes qui ont du mal à trouver des stages intéressants, je côtoie toujours des jeunes qui ont du mal à trouver des formations et qui aspirent aussi à s'insérer socialement, à trouver des métiers.
Donc pour vous, c'est pas la priorité, c'est ça?
Je pense
c'est pas la priorité,
plan forcément... de désarmement, et je pense que c'est une façon un peu caricaturale de présenter la réalité des banlieues qui n'est pas aussi, qui se réduit pas à cet aspect-là.
Alors, on va continuer la conversation. On a compris là-dessus peut-être une différence, hein, un premier désaccord. Je vous propose qu'on parle maintenant de l'immigration. Alors, évidemment, ça n'a pas forcément un lien de cause à effet, mais toujours est-il que c'est souvent présenté comme cela. Sur l'immigration, il y a aussi, donc, je la cite, hein, c'est pas du tout pour lui faire davantage de publicité qu'aux autres, mais c'est parce que la mesure est plus radicale et peut-être ça peut lancer le débat, et ça pose quand même une question importante. Marine Le Pen, dans son programme, parle de la suppression du droit du sol. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, Maïté Carsalade, parce que c'est quand même pas rien, c'est contraire à la grande tradition française. Qu'est-ce que c'est que cette suppression du droit du sol et pourquoi?
Je pense que avoir automatiquement une nationalité, c'est pas bien. Je pense que des enfants qui naissent doivent pouvoir choisir à l'âge adulte, en connaissance de cause, après avoir fait leurs études. Alors bien sûr, je pense que 95, 98, peut-être 100% choisiront d'être français après être nés sur le sol français. Mais c'est une prise de conscience tout d'un coup, le jour où on a cette espèce de baptême, enfin c'est un nom un peu le baptême, un peu religieux, mais enfin cette carte d'identité qu'on vous remet, enfin l'âge adulte, on rentre dans l'âge adulte, c'est une façon de comprendre que on est français. Être français, ce n'est pas qu'avoir une carte d'identité.
Mais est-ce qu'on ne peut pas le comprendre, entre guillemets, autrement qu'en supprimant ce...
Je pense que il y a d'abord une volonté, et on le voit bien outre-mer, de ne pas accepter tout le monde, puisqu'on ne pourra pas. Le problème, c'est mathématique.
Vous pensez à quoi quand vous dites outre-mer?
L'outre-mer, je pense à Cayenne, je pense à des populations françaises où des populations extérieures viennent.
Vous pensez aux Comores,
voilà. Oui, je pense, viennent accoucher, sont français, mais sont pas français dans l'âme, sont pas français dans leur tête. Ils sont dans une société où on va leur donner. Et je pense que ça, et je rejoins monsieur aussi sur l'éducation.
Est-ce que vous parlez pas d'un exemple un peu extrême, parce que là, de fait, ce qui se passe.
Un exemple extrême, c'est qu'on vient accoucher dans une clinique française et on est français. Non, on n'est pas français parce qu'on est né en France. On n'est pas français parce qu'on est né en France. Français, c'est un choix de société, c'est un choix de nationalité, c'est un choix d'identité. Voilà. Et je pense que à une époque où tout se dilue, on n'avait pas ce problème-là il y a une centaine d'années. Mais aujourd'hui, ça se dilue. On est dans une espèce de mondialisation où tout le monde voyage beaucoup, tout le monde...
dit en négatif, qui dit supprimer du droit du sol, dit droit du sang. Et de fait, c'est pas du tout la tradition française. C'est-à-dire que Du coup, la nationalité se transmettrait par hérédité et pas par volonté d'être français.
Si, puisqu'il y a des gens qui viennent migrer et à qui on donne la nationalité française. Mais ils font la demande. Ils en sont conscients. Ils le veulent. Et je pense que ça, c'est une étape importante. Psychologique, elle est très importante.
Abderrahmane Oumachar, qu'est-ce que vous diriez sur cette mesure? C'est quand même là, pour le coup, le Front National propose une vraie révolution, en fait, pour la société française.
Oui, tout à fait.
Je trouve que c'est une, d'un point de vue symbolique, c'est une proposition assez radicale et qui vient un peu s'opposer à une tradition française quand la France avait confiance en elle et quand elle avait cette capacité à offrir un modèle qui invite et qui... du coup, aujourd'hui, parce qu'il y a une frilosité, il y a une perte de repères, il y a une perte de repères face à l'incapacité de l'État à être maître de son destin économique, etc. Bah, aujourd'hui, on part sur des mesures un peu symboliques qui ont pour... ambition un peu de choquer en même temps, de cliver, et c'est toujours cette... Je trouve que ce procédé, il est extrêmement dangereux, parce qu'on ne peut pas, à partir de certains cas, mais vraiment exceptionnels, d'un contexte très particulier, exceptionnel, en faire en généralité, quitte un peu à déstabiliser et à remettre en cause une vocation de la France à être un pays qui intègre par ce choix des citoyens à une adhésion
par choix et pas par hérédité d'une certaine manière.
Par choix. Mais je pense que ça va un peu de soi. C'est la défiance à l'égard des institutions. Il faut les trouver dans le modèle qu'on arrive aujourd'hui à offrir ou qu'on n'offre plus. Quand on voit aujourd'hui la question des affaires par rapport au, on nous parle tout le temps de ces valeurs républicaines, mais c'est les valeurs républicaines qui sont trahies un peu au quotidien par rapport à des gens qui demandent l'exemplarité, qui demandent un peu à des populations de montrer un peu les preuves de leur francité alors qu'ils sont de trahir au quotidien par rapport à l'exemplarité qu'il aurait demandé. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie par rapport à ce genre de proposition.
Michel Aounou, peut-être sur ce sujet, oui, vous voulez réagir?
Oui, je veux réagir à ce que vient de dire Madame Carsalade. Je trouve que sur les deux thèmes que vous avez proposés, désarmer les banlieues. Mais on est en guerre?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
Oui, on est en guerre.
Non, c'est pas le sujet. Et vous dites, et vous êtes contre la police de proximité. Justement,
alors, la police de proximité... Essayez de pas trop revenir en arrière, mais bon, allez-y.
Non, je dis juste un mot là-dessus et on va venir sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La police de proximité, c'est une police de renseignement qui est proche de la population. Vous dites, la population sait parfaitement où se trouvent les trafics. La police de proximité, proche de la population, saura sans doute être en tout cas efficace sur ce secteur-là. Je m'arrête là, mais je trouve que faites attention aux mots que vous employez. De même que tout à l'heure, vous avez parlé de la République.
Elle n'a pas dit qu'on était en guerre. Hein, c'est...
Non, non, c'est moi qui... Voilà, je perçois ça comme ça.
Quand on est en désarmement,
ça veut dire qu'il y a des armes, on est dans une...
Ça veut dire que les banlieues seraient armées.
C'est quand même grave. Et pourquoi parler des banlieues qui seraient plus armées qu'ailleurs? J'en suis pas sûr. Il n'y a aucune statistique vraiment qui le dit. Bien. Attention au langage qui entraîne... une hostilité des gens les uns par rapport aux autres.
Sur le droit du sol, parce que vous êtes parfois...
Sur le droit du sol, mais attention, Madame Cassel, vous êtes en train de réinventer la République. Marine Le Pen parle énormément de République quand ça l'arrange. Et sur ces sujets-là, ce qui est fondamental dans la République, c'est justement qu'il n'y ait jamais de droit du sang. C'est toujours le droit du sol, car la République est accueillante. Monsieur Abderrahmane vient de le dire. Hein. La République est accueillante, elle est fraternelle, et elle accepte tout le monde sur son sol, pourvu qu'on soit, qu'on accepte et qu'on soit fidèle aux valeurs de la République. À la limite, je vous rejoindrai volontiers quand vous dites qu'il faut qu'on devienne français. Oui, mais vous savez, on devient français assez naturellement en vivant en France. en vivant en France. Et quand vous dites, mais attention, ces gens-là, ils arrivent, il faut qu'ils acceptent ceci, cela, etc., leur faire passer un examen de français, etc. Mais on ne fait qu'opposer.
Elle n'a pas dit, mais il y a des candidats qui le disent, après en tout cas.
Non, mais Marine Le Pen le dit. Enfin, excusez-moi, on vient de parler de la fameuse mesure Molière, par exemple, où sur les chantiers, il faut que les gens maintenant se mettent à parler français. Mais c'est une pantalonnade. Tous les chantiers, les Italiens, les Polonais, ils travaillaient tous ensemble.
En tout cas, enfin, c'est une mesure qui est prise par un certain nombre de personnes, même au PS.
Comment on peut... peut-être... Mais,
enfin, je précise, hein, c'est factuel.
Mais je veux dire que c'est quand même grave de... on dit toujours la stigmatisation des gens. Mais oui, on les désigne les uns par rapport aux autres. Mais non. Acceptons les gens tels qu'ils sont, avec leur qualité et leur valeur culturelle.
Alors excusez-moi, je vais juste prolonger le débat avant qu'on fasse une première pause donc musicale, même si peut-être qu'il n'y en aura qu'une dans cette émission, sur l'immigration, pour préciser un peu les positions des différents candidats. François Fillon, donc, ce n'est pas une surprise, est assez, remonté, mais ce n'est pas du tout le bon terme, souhaite plus de fermeté. Il a eu cette phrase plusieurs fois dans la campagne, il disait « Les étrangers ont des devoirs avant de réclamer des droits, ou quand on entre dans une maison, on n'impose pas une loi. » Donc, exemple, durcissement du regroupement familial, suppression, je vais y arriver, de l'aide médicale d'État, fin des nuitées des demandeurs d'asile, ce qui n'est pas rien quand même comme mesure. Alors je citerai donc Marine Le Pen qui, sur cette question de conditionner la nationalité à l'usage du français, un certain usage du français n'est pas la seule. Nicolas Dupont-Aignan rajouterait donc qu'il faut durcir les conditions de la naturalisation. Et pour essayer d'être à peu près exhaustif, Emmanuel Macron donc, est en favorable à des quotas en matière d'immigration de réduction des délais de la demande d'asile à 6 mois. Il fait de la langue française, la correcte acquisition de la langue française, donc un critère de nationalité. Et pour finir, Benoît Hamon, comme Jean-Luc Mélenchon, sont pour pas de quotas en matière d'immigration. Alors on vous a moins entendu, François Tolzan, qu'est-ce que vous pensez en matière sur ces sujets d'immigration, vous qui avez été maire adjoint de Cugnot?
Alors d'abord, la France a besoin d'une politique d'accueil digne pour les migrants, comme dans l'Union européenne.
Vous voulez dire que c'est pas le cas aujourd'hui ou...
En coopération. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là que c'est pas le cas aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on n'accueille pas assez ou qu'on n'accueille pas dignement?
Il y a des difficultés d'accueil des migrants. D'ailleurs, il y a eu toute une enquête faite par la Ligue des droits de l'homme et CNRS le 21 mars à Toulouse, accusant la préfecture de ne pas accueillir comme il faut les migrants, les faisant revenir pour des papiers, leur donnant des rendez-vous à 14h, ils passent à 17h, des files d'attente qui n'en finissent plus, c'est jamais les bons papiers. En fait.
Donc accueillir dignement, ça veut dire...
Voilà, un très mauvais accueil, et en même temps, la préfecture qui fait un peu de zèle sur l'accueil des migrants. Donc il faut un autre accueil des migrants.
Donc se donner des moyens. Mais sur la politique migratoire de la France, est-ce que vous considérez de fait que... comme le propose, Emmanuel Macron, qu'il faut des quotas en matière d'immigration, vous qui avez été responsabilité dans une banlieue.
On accueille la misère du monde.
Je suis pour accueillir les migrants. Voilà. Non, ouais. c'est pas la misère du monde.
Si.
Parce que les migrants.
Excusez-moi, laissez-le parler.
Les migrants qui arrivent d'abord, ils sont en souffrance. Ils viennent pas en touriste. En France ou dans d'autres pays. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes économiques, des problèmes de guerre, des problèmes politiques, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans le pays. Et je pense que la France a toujours accueilli les migrants. Les migrants ont fait la France. On les a accueillis pour faire des voitures, on les a accueillis pour faire des routes, on les a accueillis pour développer l'industrie, pour développer l'agriculture. Il y a toujours eu des migrants. Il n'y a pas d'augmentation des migrants. Et moi, je pense qu'il faut les accueillir. Il faut régulariser les sans-papiers, parce que là aussi...
Donc régulariser tous les sans-papiers.
Régulariser tous les sans-papiers, parce que là aussi, il y a de la souffrance. Moi, je considère que les migrants, d'abord, ce sont des personnes.
Est-ce qu'il faut mettre des limites, malgré tout?
Ce sont des personnes, des personnes humaines, des hommes, des femmes et des enfants qu'on ne prend pas suffisamment en compte.
Donc régularisation des sans-papiers et pas de limites, d'une certaine manière. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux migrants qui arrivent, on régularise aussi ceux qui arrivent.
On régularise les migrants, mais il n'y en a pas qui arrivent. C'est pas des vagues, par contre, il y a des bateaux qui n'arrivent pas. Et qui coule en mer, c'est la Méditerranée qui devient quand même un cimetière. Et je pense que là, la France et l'Europe pourrait régler autrement l'accueil des migrants, et en même temps j'en profite pour l'accueil aussi des réfugiés.
Alors peut-être, hein, c'est pas, là de fait c'est quand même des positions enfin, assez diamétralement opposées, assez extrêmes, hein, juste pour précision. Donc le pape François, c'est vrai, c'est souvent désolé, hein, a beaucoup insisté pour la nécessité, puisqu'on est quand même dans une radio chrétienne, d'un accueil, l'occasion de cette vague migratoire qu'on dit être la plus grande vague migratoire depuis l'après-guerre. Mais il faut reconnaître que la France, en fait, n'a pas accueilli au final énormément de personnes, puisqu'il y aurait, on avait promis 20 000, je crois, visas, non, et en fait, il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a beaucoup plus.
Il n'y a pas 20 000 visas qui ont été accordés, en tout cas.
Non, mais écoutez, personne ne le contrôle, personne n'est capable de dire le nombre exact. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a en France une souffrance. On a beaucoup de chômage, et on a beaucoup de gens, près de 9 millions de Français, qui vivent en dessous des seuils de pauvreté. Alors, je crois qu'à partir d'un moment, quand on ne peut plus, on ne peut plus. Bien sûr, nous avons tous des enfants, nous avons tous un cœur, nous sommes normalement constitués et nous sommes tous en général élevés avec des notions de charité et d'aide aux autres. Mais il arrive un moment où on néglige complètement. On néglige les gens. On néglige les gens dans les banlieues. On a négligé tout un tas de populations. On a près de 500 SDF qui sont morts cette année de froid. Ces gens-là, on les loge pas ? On s'en occupe pas ? On les oublie ? Ils sont passés à la trappe. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'à un moment, moi, je suis pour qu'on stoppe tout et que on s'occupe.
Alors vous allez plus loin que Marine Le Pen, parce qu'elle a pas dit qu'il fallait tout stopper.
10 000, c'est... elle veut.
Il faut réduire le solde migratoire de 10 000 par an.
De 10 000 par an.
Maintenir à 10 000 par an.
Disons que ça veut dire quoi ? C'est un appel fort en disant stop, on arrête et on fait ce qu'il faut pour permettre aux gens de vivre convenablement dans notre pays.
Alors pardon, on comprend déjà la conversation, mais il faut qu'on fasse une première pause parce que le temps passe, et puis ça va nous permettre de reprendre nos esprits. Voilà, cette émission ce matin, donc Identité nationale ou multiculturalisme, donc quatrième émission de notre série spéciale à l'occasion des présidentielles, avec autour du plateau Michel Alenou, qui est président de la communauté d'Emmaüs à Saint-Gaudens, Abderrahmane Oumachar, qui est entre autres donc président fondateur de la mosquée de Bagatelle à Toulouse, François Tolzan, qui a donc été ancien maire adjoint de Cugnot, qui est membre du Parti communiste et délégué diocésain à la mission ouvrière, et Maïté Carsalat, qui est élue Front National au Conseil régional et candidate à la députation dans la quatrième circonscription, et Alexandre Efremenko, donc de l'école de journalistes de Toulouse. Alors, on poursuit la conversation et puis après je vous laisserai faire votre incise, Michel Alenou, donc pour parler banlieue. Donc, on va peut-être commencer par vous. Vous aviez une réaction à ce qu'a dit Madame Carsalat juste avant la pause.
Oui, je disais tout à l'heure que le Front National réinvente la République.
Alors, on a dit qu'on essayait de ne pas faire d'attaque à Dominem. Étayez votre propos.
Dis le Front National.
oui, mais j'ai bien compris. Et justement, c'est pour ça que je vous mets en garde. Parce que...
Alors...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien... Écoutez, sur cette affaire des migrants, peu importe comment on les appelle, migrants, réfugiés, peu importe, ce sont des femmes, des hommes qui fuient la guerre, qui fuient la pauvreté, la persécution, très souvent. D'ailleurs, on fait des distinctions parce que les chrétiens d'Orient, ça, ils sont acceptables, mais les autres, peut-être un peu moins. Bien.
J'aimerais quand même rappeler...
Non, je dis le Front National, je dis ça, attendez, et pas que le Front National d'ailleurs. Mais François Fillon, par exemple, est tout à fait sur cette position-là. Il faudrait quand même ne pas oublier les grands contrats que nous avons signés en 1949, après la guerre, et notamment la Déclaration des droits de l'homme qui a été signée par 52 pays, et qui, dans son article 13, dit explicitement que tout homme, et c'était une grande conquête après la guerre, tout homme a le droit de quitter son pays et de s'installer dans un autre État. Tout homme a le droit de quitter son pays et d'y revenir. Ça, c'est la République française qui l'a signé, avec 52 pays. Et cette signature est infiniment plus importante, c'est un contrat international, et si vous connaissez au plan juridique la hiérarchie juridique qu'il y a des différents contrats que nous avons signés ou des différentes lois, c'est infiniment supérieur à la simple circulaire Valls, par exemple, sur les migrants ou toute autre mesure qu'on pourrait prendre au niveau d'un décret ou d'une loi. C'est très important parce que c'est la fraternité humaine sur laquelle, c'est ça qu'il faut faire vivre et qu'il faut faire vivre dans la population.
Donc vous dites que
je voudrais parler de notre expérience à Emmaüs.
Rapidement, si ça vous embête pas, parce qu'il faut après qu'on parle des
Alors, à Emmaüs, la personne qui vient et qui frappe à la porte est accueillie, pourvu qu'évidemment qu'on ait de la place, est accueillie.
Quand même. Ça, c'est une bonne chose.
Évidemment.
Oui.
Mais attention, madame. C'est une...
Vous avez dit ce qu'il fallait.
Madame, attendez, il s'agit d'une communauté de travail. On n'est pas dans la charité, madame. Le lendemain, on lui demande son prénom, le lendemain, il travaille. C'est l'ensemble de la communauté qui travaille elle-même. C'est-à-dire qu'Emmaüs leur donne les conditions d'un travail, quel qu'il soit, qu'il parle français ou pas. Ce n'est pas le problème. L'ensemble de la communauté travaille et, par conséquent, gagne leur vie et, deviennent indépendants et ne sont à la charge de personne. Parce qu'on paye aussi les cotisations sociales.
Pardon, vous me faites une très bonne introduction et je vous remercie. C'est pas du tout pour vous couper la parole, mais je vous la redonnerai après. À propos des banlieues, puisque donc globalement, dans les programmes des candidats, il n'y a pas grand-chose à propos des banlieues. Voilà, François Hollande s'en est même désolé, semble-t-il, récemment dans la presse. Entre autres, le candidat François Fillon, donc lors d'un des débats de la primaire, a été interrogé sur le sujet et a eu une réponse vague qui a fait gloser un peu la presse, disant qu'en gros, il fallait l'essentiel, c'était justement l'emploi en banlieue et que sinon, il fallait continuer à faire ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'ANRU, donc qui est ce grand plan de rénovation des banlieues. Le retour des forces de l'ordre et puis la poursuite de ce qui est fait en matière de politique de la ville. Je cite 2-3 mesures pour lancer la conversation autour des banlieues peut-être et je vous demanderai à chacun de me dire ce qui vous semble les mesures qui vous semblent importantes ou au contraire ce qui n'apparaît pas dans ces programmes. Donc Marine Le Pen a avancé comme solution, alors pas, j'imagine que ça ne va pas solutionner le problème des banlieues, mais la fin des allocations pour les parents dont les enfants ont des manquements répétés. Donc divers comportements. Emmanuel Macron, semble-t-il, une des rares fois où il en a parlé, a parlé de la nouvelle économie comme une des solutions dans les banlieues au problème des chômages de banlieue, en parlant entre autres, prenant l'exemple des VTC. Benoît Hamon est pour une brigade de lutte contre les discriminations et Jean-Luc Mélenchon pour une nouvelle carte scolaire. Alors, ça fait court, hein, de fait, il faut quand même le reconnaître. Est-ce à dire que derrière leur tête, il y a juste un problème de sécurité et d'emploi dans les banlieues et que le reste est fait, je l'ai dit, en rue politique de la ville? Qu'est-ce que vous répondriez sur ce sujet, Abderrahman ou Machar? Qu'est-ce qu'à votre avis il manque ou qu'est-ce que vous soutenez dans ce qui a été cité?
Je trouve que les statistiques dans les banlieues en rapport avec le chômage, avec l'accès au logement, avec la déscolarisation, notamment des jeunes, sont alarmantes. Et que le taux de chômage parmi les jeunes issus des quartiers populaires, il va au-delà des moyennes nationales. On parle des fois de 30% de taux de chômage de jeunes dans les quartiers. Donc c'est une question aujourd'hui qu'il faut prendre à bras le corps. C'est une question très importante. Si on ne travaille pas sur les causes racines, si on ne fait pas un travail de fond à l'endroit pour lutter contre des discriminations un peu structurelles. Je pense aujourd'hui il y a une politique de la ville qui justement...
Les discriminations c'est quoi alors dans ces cas? Parce que vous parlez des emplois, ça serait des discriminations à l'embauche ou... Parce qu'à vous entendre, la priorité ce serait l'emploi en banlieue.
À l'embauche entre autres, oui, parce qu'il y a un taux de pauvreté dans les quartiers prioritaires qui est assez important et qui fragilise un peu les capacités des familles à être dans l'accompagnement éducatif.
Ça on a compris, mais donc pour vous la priorité ce serait l'emploi et un des obstacles ce serait la discrimination.
Pour moi, une des pistes vraiment à développer et à renforcer, c'est la politique de la ville, à savoir cette politique prioritaire que la République a mis en place pour justement redresser un peu les écarts qui se sont creusés et qui ont fait un peu le lit de cette défiance un peu qui s'installe et de ces problématiques un peu qui naissent un peu dans un contexte de pauvreté. Et assez important.
Donc par exemple la brigade de lutte contre les discriminations, ça vous semble être une bonne chose, parce que c'est ce que avance Benoît Hamon, disant qu'elle pourrait non seulement intervenir dans les entreprises et autres pour favoriser la fin des discriminations.
Il y a pas mal de mesures dans le cadre de la politique de la ville qui sont aujourd'hui mises en place. Il s'agit un peu de les renforcer, de les continuer, de les soutenir justement et de développer les moyens par rapport à ça.
François Tolzan, sur les banlieues, l'idée c'est pas forcément de donner votre sentiment général, mais sur les mesures que j'ai citées, déjà est-ce que vous trouvez un peu étonnant que les banlieues soient si peu présentes dans les programmes de campagne? Et sur les mesures que j'ai citées, est-ce qu'il y en a une qui a retenu votre attention ou est-ce qu'il y a une priorité que vous voudriez citer?
D'abord, si vous permettez quelques secondes, je voudrais répondre à Mme Carcelade pour dire que les migrants ne sont pas le problème. Et ni les...
Attends, là, vous revenez en arrière. Oui, enfin, attendez, je suis désolé, hein, mais non,
vous permettez.
Elle n'a pas dit que les migrants étaient un problème. Elle a dit qu'elle était...
Le dis. Moi, je le dis. Les migrants ne sont pas un problème. Moi, je dis, c'est une richesse. C'est une richesse parce qu'ils apportent d'abord leur savoir-faire. Ils apportent au niveau culture. Et ils apportent au niveau richesse, au niveau financier. Et ce n'est pas les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer qui vont créer la crise en France. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Guyane. Jusqu'à présent, c'était la fusée Ariane qui était le summum au niveau de la Guyane. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des hommes et des femmes, des enfants qui vivent dans une misère ahurissante en Guyane. Donc voilà au départ ce que je voulais dire.
D'accord.
À ce qui concerne les
banlieues, dans les mesures que j'ai citées...
D'abord,
qu'est-ce qui a retenu votre attention ou quelle serait la priorité?
Je ne suis pas pour la fin des allocations. D'abord, dans les banlieues, il se passe des choses déjà. Il y a tout un mouvement associatif qui est en train de vivre. Attendez, laissez-moi finir. Ensuite, il y a des gens qui travaillent, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Des gens qui sont embauchés et qui travaillent là-dedans. Oui, une nouvelle carte scolaire, oui, parce qu'il y a des enfants qui sont défavorisés. C'est ce qui se passe à l'école Bellefontaine, où parents...
Donc ça, c'est la mesure proposée par Jean-Luc Mélenchon.
Enseignants veulent que les choses changent, parce que pour favoriser justement l'éducation nationale. Après, au niveau des banlieues, bien sûr, c'est l'emploi, c'est le salaire. Quel est le problème de ces banlieues? Parce qu'on parle toujours de la drogue, de l'armement. Oui, ça existe. Mais c'est des jeunes qui sont désœuvrés, parce qu'on ne s'en est pas occupé des banlieues. Donc c'est l'égalité des droits, c'est la protection sociale, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'école. Voilà, c'est tout à prendre. C'est la citoyenneté qu'il faut apprendre dans ces banlieues. Mais il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens humains, financiers, pour...
Donc soutien en politique de la ville, à l'ANRU, priorité sur l'emploi.
Pour soutenir ce qui se passe.
Et donc, nouvelle carte scolaire, il faut dire aussi, enfin, on peut citer cet exemple, à Toulouse récemment, donc il y a deux collèges qui vont fermer, si je ne me trompe pas, à la rentrée prochaine, c'est la rectrice en a parlé à cette antenne récemment, donc pour favoriser justement aussi cette mixité sociale. Alors certains se plaignent que la mixité sociale se fasse que dans un sens, parce que c'est les élèves du quartier qui vont aller à l'extérieur, et auraient préféré que ce soit l'inverse qui se passe. Sur la banlieue, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous vous désolez, Madame Carcelat, qu'il y ait si peu de choses dans les programmes?
Moi, je suis...
Est-ce que ça vous étonne ou pas?
Je suis un peu sidérée par le fait que ces enfants sont défavorisés. On a mis des milliards et des milliards dans les quartiers, du temps de Dominique Baudis et Françoise de Vérinas d'ailleurs. Je lui rends hommage, un petit bonjour.
Puisque donc vous avez travaillé avec Dominique
Baudis. Bien sûr, j'ai travaillé avec Dominique Baudis pendant 18 ans. On a mis des milliards dans les quartiers. Donc il faut arrêter.
Heureusement qu'on a mis des milliards
bien
dans les quartiers,
sûr.
Non ?
Mais ça veut dire aussi que l'argent donc ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Ça veut dire que dans ces quartiers, moi, je vois les cinq propositions qui sont émises avec Marine Le Pen, c'est quand même la mise en place de conditions du vivre en paix, d'abord. Et l'école est sans doute le creuset de l'apprentissage de la citoyenneté. Et quand monsieur me dit ces enfants sont défavorisés, je suis désolée, ils ont l'école, ils ont les terrains de sport, ils ont des bibliothèques, ils ont ils ont exactement ce qu'il y a dans tous les autres quartiers.
Oui, enfin c'est plus difficile parfois d'étudier quand on est au Mirail que quand on est à la Côte Pavée.
Peut-être que c'est plus difficile quand on est... Mais on a le même enseignement, on a l'école. Si on veut travailler, on peut travailler. Le problème, c'est que je pense que qu'il y a une faille là. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné à ces enfants les mêmes chances parce qu'on ne leur a pas donné le goût d'apprendre. Ça, j'en suis convaincue. Et là, il y a un travail à faire. Il faut permettre à ces enfants d'avoir envie d'apprendre. Et je reviens juste sur une chose, parce qu'on n'aura plus le temps de le dire après. La migration, c'est...
Alors revenez pas trop sur la migration, non, on va pas s'en sortir. J'aimerais quand même qu'on parle de l'islam.
Il faut surtout avoir une politique dans les pays qui sont pauvres, une vraie politique. On a donné là aussi de l'argent. La fameuse France-Afrique, la politique France-Afrique est une catastrophe. Elle a montré que l'argent partait on ne sait où et qu'il n'est pas arrivé véritablement pour développer l'électricité, pour développer l'eau.
Alors j'entends, hein, mais excusez-moi, il faut qu'on avance. En tout cas, je dirais juste, puisque pour être fidèle à ce qu'on a pu lire avec Alexandre Efremenko dans les programmes de campagne, que le seul qui parle de cela, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui est pour un grand grand plan de développement africain et méditerranéen.
Oui. Non, elle en parle, Marine. Ah bon, d'accord. Beaucoup, beaucoup. Elle en a beaucoup parlé, justement, elle est contre la
Donc
la
il y en a peut-être d'autres.
Oui, oui.
Pardon, j'avance parce que le temps file et j'aimerais quand même qu'on parle de l'islam. Alors, je vais donner la parole à Alexandre Efremenko et on va commencer par Emmanuel Macron et ce qu'il a dit autour de l'islam.
Alors, sur la religion, le candidat d'En Marche affirme le cœur du débat, c'est l'islam, mais il affirme vouloir l'aborder de manière dépassionnée. Il souhaite aider les musulmans de France à gagner le combat pour un islam éclairé. Lorsqu'il est interrogé sur ces questions, Emmanuel Macron soutient le fait que les musulmans de France sont fiers d'être français avant que d'être musulmans.
Alors, donc, d'une certaine manière, on pourrait attendre autre chose du candidat... candidat de gauche qui en tout cas présenté comme tel parfois qui potentiellement aujourd'hui en tout cas est le favori dans les sondages donc lui pose cette question en disant donc le cœur du débat c'est l'islam. Et comment vous réagissez Abderrahmane Oumachar peut-être avant qu'on parle des positions des autres candidats quant à la question de l'islam, est-ce que ça vous fait mal, ça vous fait bizarre que Emmanuel Macron dise les choses comme cela?
Je trouve qu'il est c'est extrêmement dangereux pour la cohésion un peu sociale de notre pays, pour la paix sociale, pour la paix dans notre pays, d'avoir une logique un peu ethnique et une logique un peu religieuse des questions sociales. Je pense que les présidentielles, c'est un grand moment un peu démocratique où le pays un peu pose un peu un débat sur les grandes orientations qu'un pays va mettre en place pour dynamiser son économie, renforcer un peu les liens entre sa population, poser les questions un peu de l'avenir.
Donc ça vous semble malvenu, c'est ça que vous voulez dire ?
Le fait que l'islam revienne toujours systématiquement dans les débats d'une manière un peu obsessionnelle, d'une manière un peu crispée, je trouve ça dangereux. On peut poser la question de l'islam, mais il faut la poser d'une manière un peu sereine. Et justement, pour moi, il est très important, d'un point de vue symbolique, que tous les candidats affirment que l'islam fait partie aujourd'hui, une partie intégrante de la réalité, de la diversité aujourd'hui de la France. Et c'est un peu le travail que nous menons, ce travail d'interculturalité, ce travail un peu de...
Alors venons-y, c'est-à-dire que pour vous, la France d'une certaine manière est multiculturelle, ou doit être multiculturelle.
Pour moi, la France est partiellement musulmane, comme la France elle est partiellement catholique, comme la France elle est partiellement protestante, comme la France elle est partiellement juive. Comme la France, elle est partiellement africaine, comme la France, elle est partiellement...
Donc elle a une identité multiculturelle.
Voilà. La France, c'est la diversité un peu de tout ça, et qui fait un peu le génie français, qui fait un peu l'identité française dans sa beauté, dans sa positivité, etc. Et je pense que nous devons un peu retrouver un peu ce bon sens pour dire aussi que 10% de la population française aujourd'hui, elle est de confession ou de culture musulmane, donc il faut arrêter maintenant.
Ce qui fait entre 5 et 10 millions de personnes.
Donc c'est une composante un peu qu'on pourrait plus qualifier un peu de minorité, etc. C'est les citoyens français de confession musulmane, il faut les considérer comme des citoyens à part entière et les traiter comme tels et non pas toujours être dans un rapport un peu on va dicter aux musulmans de ce pays comment ils doivent vivre leur religion ou pas, la même manière que l'État n'a pas, c'est ça pour moi la laïcité. L'État n'a pas à s'immiscer un peu dans la religiosité, ou les convictions, ou les croyances ou les non-croyances des uns et des autres.
Donc, une France multiculturelle, et vous demandez à ce que donc, l'islam soit respecté par la République et que la République ne soit pas intrusive quant à l'égard de l'islam. Peut-être qu'on vous relancera sur la phrase quand même d'Emmanuel Macron souhaitant aider les musulmans de France à gagner le combat pour un islam éclairé, parce que bon, c'est quand même une question. Hein. On a pu en parler à l'occasion de d'autres occasions. Je vais juste citer rapidement pour les principaux candidats. Leur principale position, en tout cas celle qu'on a relevée sur le sujet, François Fillon donc qui a dit que le problème c'est l'intégration de la religion musulmane dans la République, considérant donc qu'il y a des points, entre autres donc peut-être, qu'il y aurait des points qui seraient litigieux quant à la possibilité d'intégration de la religion musulmane dans la République. Disons aussi il y a un problème lié à l'islam, Marine Le Pen qui a fait un certain nombre d'interventions sur le sujet. Benoît Hamon, je l'ai relevé aussi, alors c'est probablement pas exhaustif, qui aurait déclaré qu'il y aurait un certain déni le déni d'un certain nombre de musulmans en France face à l'islam radical. Alors c'est pas exhaustif, pardon si j'oublie un certain nombre de choses, parce que Benoît Hamon a certainement dit d'autres choses, toujours est-il que la question est dans l'air en tout cas pour les trois principaux candidats. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Maïté Carcelade, et peut-être sur cette France multiculturelle?
Alors bien sûr, je suis tout à fait opposée à une France multiculturelle. Je suis pour une identité forte de la France. Si on ne doit pas s'immiscer, je suis tout à fait d'accord avec monsieur qu'on ne s'immisce pas dans le religieux. Par contre, je refuse aussi que le religieux s'impose. C'est-à-dire que les prières de rue, moi, je ne l'accepte pas. L'inégalité homme-femme, je ne l'accepte pas dans ma société. On a conquis, les femmes européennes ont conquis une certaine liberté de vie. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse imposer à une femme d'être mineure par rapport aux hommes. C'est quelque chose, une conception que je ne peux pas le comprendre. La femme voilée m'est pénible. C'est quelque chose que je n'accepte pas.
Donc, une petite jeune fille. Vous dites qu'il y aurait chez vous, enfin, pour préciser votre propos, c'est ce que disent certains candidats, donc c'est pour y faire écho, hein, qu'il y aurait en fait des éléments dans l'islam qui seraient en fait, selon vous, donc irréconciliables avec la valeur de la République, c'est ça?
Ah, c'est-à-dire que si les gens se plient aux valeurs de la République, il n'y a aucun problème.
Donc lesquelles principales?
Vous avez lu la lettre du CICF qui a été d'ailleurs avalisée par monsieur Bourbacker sur sa conception de la tenue, du comportement de l'islam en France, elle est claire. Moi, je l'ai lue entièrement, cette lettre. Elle m'a paru positive.
C'est-à-dire qu'on doit... Conseil français du culte musulman, CFCM.
Oui, on doit avoir une tenue qui ne soit pas contraire aux us et coutumes du pays. On doit avoir une religion propre à soi. On la vit en soi. On n'a pas besoin de l'imposer aux autres. À ces conditions, on peut vivre ensemble, je crois. Mais vivre avec, quand les choses s'imposent trop, je crois qu'on n'est pas prêt. En tout cas, je pense que la population française n'est pas prête.
Donc le travail d'intégration de l'islam n'aurait pas été fait jusqu'au bout, c'est ça? Il y aurait des choses encore à revoir ou à négocier?
Il y a des choses à revoir, oui. Il y a des choses à revoir. Je n'accepte pas qu'une petite jeune fille aille au lycée voilée. Je vais aux arènes, je vais au métro à Rennes. Quand je vois des petites jeunes filles qui ont 13-14 ans qui sont voilées, ça me choque profondément.
Alors je suis désolé, mais l'émission touche à son terme. Il y aurait eu encore bien d'autres choses. En tout cas, on a compris que là-dessus, entre multiculturalisme et identité nationale, il y a une différence. Abderrahmane Machar.
Moi, je pense que les musulmans de France, dans la grande majorité, ils aspirent à être reconnus comme des citoyens à part entière. Et il faut respecter cela. Et pour la majorité des citoyens français de confession musulmane, ils aspirent aussi, et c'est ce qu'ils font, c'est renouer avec... avec un vivre ensemble basé sur un a priori un peu positif. Et je pense qu'aussi ils pratiquent leur islam à partir de leur ancrage culturel d'ici et non pas d'un ailleurs.
Un islam qui épouse
un peu complètement sa réalité. Et heureusement qu'on vit dans une république démocratique où chacun il peut vivre sa religion, sa croyance ou sa non-croyance sans qu'il ait à se justifier du moment qu'il porte pas une atteinte à la loi.
Voilà, je suis désolé, mais l'émission touche à son terme. Déjà, on a débordé. Il faudra refaire d'autres émissions. Et pardon si vous n'avez pas pu exprimer toute votre pensée. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur votre site internet ou votre page Facebook, notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.